les puissants remèdes contre la surcharge. Beaucoup de facteurs peuvent mener à la surcharge, à un débordement, assorti au désir de tout arrêter brutalement. Comme vous, j'ai pu éprouver cette désagréable sensation, et la leçon que j'en ai retenue est issue de la philosophie du général Sun Tzu, l'art de la guerre. Identifie ton ennemi, comprends-le et anticipe ses actions. En repérant les raisons potentielles d'une surcharge, vous pourrez mieux les gérer et peut-être même les éviter. Comment gérer un débordement ? Malgré les nouveaux pouvoirs que va vous donner ce livre audio, ce moment peut arriver, même avec une très bonne organisation. Que faire lorsque vous ne pouvez plus rien gérer et que tout devient urgent ? C'est de mon passé de serveur que je tiens la solution. À cette époque, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle Les Comédiens, comme quoi il n'y a décidément pas de hasard. Sans passif dans la véritable restauration, malgré une petite expérience dans mon village natal, j'avais la volonté de bien faire mon travail. C'est ainsi que le patron a remarqué que je retenais sans erreur les commandes de mémoire et que j'avais appris par cœur tous les codes de la machine pour ne plus avoir à passer par les menus. Presque 20 ans après, je sais encore que le poulet aux écrevisses est en 618. Assez rapidement, je me suis vu propulsé sur la terrasse. C'était l'endroit le plus dur de ce restaurant qui accueillait énormément de touristes l'été. Mais c'était aussi le plus intéressant sur le nombre de couverts et donc le montant des pourboires. En renouvelant 2 à 3 fois les tables durant le service, je gérais jusqu'à 200 couverts dans une soirée. Mais le renouvellement des tables est toujours un moment délicat puisqu'il faut prendre les desserts de certaines tables, encaisser les clients qui veulent partir, une grande perte de temps incompressible, débarrasser et dresser à nouveau les tables, accueillir les nouveaux clients, leur donner les cartes, prendre leurs commandes, leur servir les apéritifs, tout en gérant le reste du service en cours. Et quand tout se passe en même temps, on peut subir quelque chose de paniquant appelé le jus. On se sent comme dans un tourbillon avec une liste d'urgences ingérables. La seule solution efficace que j'ai trouvée était de me réfugier dans l'œil du cyclone. Je m'arrêtais, lâchais tout ce que je faisais et m'éloignais de la terrasse pour avoir une vision d'ensemble sur les tables. Je faisais un point mentalement sur l'ensemble d'entre elles et remettais ma liste de priorités en ordre. En premier, les plats qui sortent. En second, les commandes à lancer. En troisième, les encaissements, et ensuite tout le reste. Et les personnes qui s'installaient pour manger se faisaient accueillir avec un sourire et l'explication qu'il faudrait patienter 10 minutes avant la prise de commande. Au lieu d'accélérer jusqu'à une rupture inévitable, je figeais tout, me déchargeais d'une des tâches et réorganisais les autres d'un coup. Le seul moyen de se sortir de la noyade de travail était donc d'arrêter de nager à contre-courant et de se laisser flotter pour reprendre le bon sens du fleuve. En 2017, j'ai vécu de nouveau cette sensation intense de jus en restauration. Je n'arrivais plus à m'en sortir dans tout ce que j'avais à faire, une accumulation d'urgences auxquelles venaient se greffer des interruptions pour venir placer des nouvelles urgences. Chacune de ces tâches sollicitait ma réflexion ou ma créativité alors que j'étais déjà épuisé. C'était au mois de juin et j'allais hurler, sans régler le problème. J'ai donc fait comme lorsque j'étais serveur, j'ai tout arrêté. J'ai éteint mon téléphone, mon ordinateur et fermé ma porte à clé. Assis sur le canapé de mon bureau, je me suis fait un café en me demandant ce que j'avais vraiment envie de faire si je le pouvais. La réponse fut une nostalgie des vidéos de l'année passée. À l'époque, je me posais moins de questions. J'ai donc pris un papier et un crayon et j'ai écrit une vidéo intitulée « Le sens secret des logos ». Puis, j'ai tourné cette vidéo. En prenant le temps, j'ai rallumé l'ordinateur en n'ouvrant que le logiciel de montage. J'ai monté la vidéo en prenant encore le temps. Et je l'ai publiée à une heure qui n'avait aucun sens, 21h30. C'est vraiment une mauvaise heure pour mettre une vidéo sur YouTube, qui plus est un lundi soir. Ensuite, j'ai pris mon agenda, mon bullet journal, ma matrice urgent important, et j'ai organisé ma semaine pour me mettre à jour, en repoussant des choses et en annulant purement d'autres tâches. Le plus étonnant dans cette histoire, outre le fait que la Terre ne se soit pas arrêtée de tourner, c'est que la vidéo que j'ai tournée ce jour-là est la première de mes vidéos à avoir atteint le score incroyable d'un million de vues en quelques jours. Lorsque vous sentez une oppression intense, que vous ne savez vraiment plus comment faire et que tout vous semble ingérable, il n'y a plus qu'une seule solution. Arrêtez-vous une demi-journée ou une journée. Vous n'avez pas d'autre choix que de ne vivre que du temps personnel ou du temps pour soi pour assainir votre mental et pouvoir ensuite mieux réfléchir. Créez de l'air en annulant ou en reportant beaucoup plus loin tout ce qui peut l'être. En général, cela concerne la plupart des objectifs que vous vous êtes mis tout seul, ainsi que les rendez-vous qui ne sont pas d'une urgence incroyable. Et il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Replacez tout ce que vous devez faire dans les 15 prochains jours grâce à une matrice d'Eisenhower. Diluez toutes ces tâches durant 3 semaines dans votre agenda. Informez les personnes concernées de cette réorganisation de planning. En appliquant cette méthode, vous allez ressentir un nouvel état, la même sensation que vous avez après une bonne nuit de sommeil. C'est le bénéfice direct d'une diminution de charge mentale, la même qui vous écrasait juste avant. Une pause suivie d'un regard neuf pour se réorganiser est la seule solution viable pour faire face à un débordement. Comment gérer le multitâche ? Il y a deux écoles. Celle qui prône le monotâche, une concentration extrême sur un seul sujet à la fois, et celle qui prône au contraire le changement permanent, les slasheurs. N'écoutez ni les uns ni les autres. Les extrêmes ne font jamais bon ménage avec la stabilité et la durée. Comme toujours, j'ai essayé les deux méthodes, avec un échec sur le long terme dans les deux cas. Le monotâche finit par provoquer chez moi de l'ennui, un sentiment de monotonie. Et je ne vous parle même pas des situations où la tâche que je voulais effectuer était ennuyeuse ou très complexe. Puisque j'ai tendance à m'épanouir dans la diversité, je me suis donc attelé aux changements très réguliers de tâches avec en bonus la possibilité de gérer de l'instantané. Coup de téléphone, mail, personne qui venait me parler, idée spontanée. Et devinez ce qu'il s'est passé. Oui, vous l'avez compris, je ne gérais rien, je brassais souvent de l'air et j'avais du mal à me remettre sur une tâche une fois que j'étais passé à une autre. La solution idéale, celle que vous devez adopter, est d'avoir des choses variées à faire, mais toutes sur le même sujet de fond, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Si vos différents projets sont identiques, il n'empêche que les choses que vous devez y faire, appelons-les les sous-tâches, sont forcément variées. Alternez dans votre journée plusieurs périodes où vous gérez les sous-tâches d'une première tâche principale, puis les sous-tâches d'une autre tâche principale, etc. N'autorisez aucun dérangement, créez plutôt des moments pour cela, que vous aurez choisis. Vous pourrez dans ces moments écouter les messages sur votre répondeur, consulter vos SMS, etc. Respectez ce rythme et vous serez efficace et épanoui. Sur les tâches principales un peu plus conséquentes, n'hésitez pas à consacrer une période plus longue. Quand vous sollicitez votre esprit et votre concentration sur un thème, votre cerveau va mettre un temps de chauffe à se roder à cette mission. Plus vous restez dessus, plus il sera efficace. À condition, bien sûr, de ne pas passer une journée pleine dessus, auquel cas vous deviendrez au contraire moins productif. Tant que vous restez sur un temps raisonnable, vous serez en pleine possession de vos ressources mentales pour avancer sur cette tâche. Par contre, si vous autorisez n'importe quoi à vous interrompre, même un simple appel téléphonique d'une minute, vous devrez recommencer tout ce processus de mobilisation mentale, de créativité et de concentration. Sans parler du fait de devoir retrouver la motivation de s'y mettre de nouveau. Moment durant lequel on perd allègrement du temps qui pourrait au contraire être du temps personnel à la fin de votre journée pour une utilisation beaucoup plus fun et agréable. Sans devenir un multitâche qui fait tout ce qui se présente à lui dans sa journée, vous devez découper vos tâches du jour en sous-tâches. Vous pourrez ensuite alterner entre ces sous-tâches pour varier vos actions de la journée et passer d'une tâche à l'autre tout en les terminant à la fin de la journée. Comment gérer le burn-out ? Tout au long de ma vie, j'ai alterné des périodes hyperactives avec des périodes où ma procrastination prenait le dessus. C'est comme ça que j'ai découvert le burn-out, frère jumeau du bien plus célèbre burn-out. Le burn-out est un épuisement personnel ou professionnel provoqué par l'ennui. En lisant quelques livres sur le sujet, j'ai cru que je ne pouvais pas être touché, pas dans ma situation. Mais c'est en 2010 que j'ai compris que l'on se trompait sur un point précis. À cette époque, j'étais très accompli dans ma vie professionnelle et personnelle. Je voyageais à travers le monde pour y présenter du mentalisme. Je vivais entre La Rochelle et Paris. Je gagnais très correctement ma vie en faisant des activités liées à mes passions. Et pourtant, régulièrement, j'avais du mal à me mettre au travail. J'avais des moments de déprime incroyables, d'épuisement physique et cérébral qui n'auraient pas dû survenir. C'est en cherchant pourquoi qu'un détail m'est clairement apparu. Tout ce que j'avais pu lire ou écouter sur le burn-out traitait principalement de l'ennui au travail, souvent par le manque d'activité ou de mission qu'avait à faire un employé. Mais ce qu'il faut définir, à titre individuel, c'est sa notion de l'ennui. Mon ennui et le vôtre ne sont pas nécessairement identiques. Ils ont sûrement un tronc commun, mais de nombreuses racines différentes peuvent le nourrir. C'est comme ça que j'ai compris que mon plus gros ennui ne venait pas forcément du manque d'activité, mais du manque de découverte. Chacun de mes burn-out était lié à une activité récurrente où, plus je maîtrisais les ficelles et moins je découvrais, moins j'apprenais et plus je sombrais. En connaissant ma véritable définition de l'ennui, je connaissais mon ennemi et pouvais enfin lutter contre. Car les causes de mon ennui sont vicieuses. Comment avancer dans sa vie si l'on doit changer en permanence, avec en données secondaires un côté monomaniaque très contradictoire? Il me fallait simplement du changement. Voici donc comment j'ai reformulé mon activité professionnelle sans en changer complètement. Je suis passé de l'événementiel au théâtre, puis, au fil des années, j'ai essayé d'y greffer de nouvelles choses, cohérentes mais radicalement différentes. Si vous regardez depuis le lointain, vous verrez à quel point faire des vidéos, faire des spectacles en théâtre et écrire des livres, pour ne prendre que mes trois activités les plus visibles, sont des activités demandant un temps, un regard et un savoir-faire radicalement opposés. Pourtant, leur contenu est toujours cohérent de l'un à l'autre. Mon arme pour lutter contre mon ennui est donc de multiplier les activités, si possible très éloignées les unes des autres, et de les rendre cohérentes sur le fond. Si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une seule fois quelque chose que vous identifiez comme étant du burn-out, alors c'est assurément un début de burn-out. N'en doutez pas. Vous devez trouver pourquoi l'ennui vous gagne et créer votre glaive personnel pour le terrasser, dans un premier temps, et l'empêcher de revenir, dans un second temps. La sensation d'ennui est un poison innommable. Pour bien l'avoir laissé couler dans mes veines, je peux vous en faire une rapide description qui vous semblera parfois peut-être familière, malheureusement. Au début, vous ressentez comme une perte de motivation. Vous dites aux autres que vous ressentez une forme de fatigue cérébrale. Mais vous savez qu'il y a un problème d'enjeu. Les activités semblent avoir un goût de carton et vous laissez le temps filer en vous disant que ça va passer. Et justement, ça passe. Encore et encore. Le temps n'a pas besoin de notre avis pour avancer, lui. En parallèle, le fait de ne pas faire ce qui vous ennuie ne vous empêche pas de vous ennuyer quand même. Le vide ne se remplit pas tout seul et vous commencez à tuer le temps. Et là encore, vous n'êtes pas né le bon siècle, car justement, les substituts existent en nombre. Jeux vidéo, jeux mobiles, séries, films, réseaux sociaux, Internet ou, de lien en lien, vous vous surprenez à lire un article sur la théorie de la Terre plate alors que vous alliez juste vérifier votre compte en banque. Et le poison provoque ses derniers effets. Vous vous sentez au mieux incapable et au pire inutile jusqu'à perdre toute estime de vous. Estime qui aurait pu être le dernier vaccin pour reprendre le dessus. Mais si même l'ego s'en va, comment lutter? En trouvant la cause de votre ennui et en l'empêchant de revenir. Voilà pourquoi il est primordial que vous analysiez ce qui peut vous provoquer un sentiment d'ennui. Listez les causes de votre ennui et travaillez vraiment sur comment éviter qu'elles surviennent. Chaque réponse sera unique et personnelle, mais c'est un exercice que je vous recommande de faire en groupe. Vous allez pouvoir vous aider énormément car vos problématiques n'étant pas celles des autres, vous allez trouver des solutions de groupe pour la personne qui, justement, n'a pas résolu cette énigme personnelle. Méfiez-vous autant de l'ennui que du surmenage. Puisque vous avez des solutions pour le surmenage, votre organisation, vous devez aussi trouver les causes de votre ennui potentiel pour l'éviter. Comment gérer la méritocratie abusive? Et si le pire ennemi que vous deviez affronter dans votre vie, c'était vous? À la fois juge et bourreau, vous ne pouvez jamais être vraiment objectif sur vos potentiels et sur ce que vous faites. La méritocratie, c'est le besoin d'avoir des difficultés pour réussir quelque chose. Il faut se sentir méritant, avoir traversé des épreuves, rien ne doit être simple. Et lorsque quelque chose est fluide, que les choses coulent toutes seules, ou qu'un hasard apporte un certain bénéfice, alors il semble qu'on ne peut pas les mériter, qu'il y a eu une erreur sur le destinataire. Si vous voulez une confidence, j'ai également ce problème. Lors de mes spectacles au théâtre, en 2011, je soufflais de soulagement dès que le public sortait de la salle. À chaque félicitation, je me disais « Ouf, ils n'ont pas vu à quel point ce spectacle est une escroquerie ». C'est peu de temps après que j'ai rencontré Céline H, qui peut témoigner que je voulais arrêter ce métier, alors que mes salles étaient pleines et que la critique était bonne. Mais je répétais que j'étais le seul lucide et que ce que je faisais ne valait rien. Sentiment qui se renforçait quand je jouais en plateau avec tous les génies comiques de Paris, peu connus du grand public à l'époque. J'ai retrouvé ce sentiment dans tout ce que j'ai fait au cours de ma vie, à chaque vidéo que je publie, à chaque livre que j'écris. Je suis content du fond, mais pas de la forme, du style et de tout ce qui me définit. À force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que deux facteurs peuvent altérer nos avancées et notre jugement. Le manque de confiance en soi et la méritocratie. Ce dernier besoin est encore plus vicieux, car on ne le détecte qu'en se posant sincèrement la question. Trouvez-vous qu'il soit normal de devoir travailler énormément et de surmonter beaucoup de difficultés pour obtenir quelque chose? Si vous avez répondu oui, vous êtes également atteint de méritocratie abusive. Pas de panique, le savoir, c'est déjà commencer le traitement. La solution est simple, vous devez déléguer votre jugement à une tierce personne. Neutre, de confiance. Mais attention, accueillir un jugement, c'est aussi accepter les deux possibilités. Première possibilité, la critique négative. Accueillez-la avec curiosité en étant à l'écoute de l'autre. N'en faites pas une affaire personnelle. Prenez-la comme une option possible et dites-vous « pourquoi pas ?» Essayez d'appliquer une réaction positive à cette critique et regardez objectivement si elle a été pertinente ou pas. Un bon exercice est de faire un jeu mental. S'il ne s'agissait pas de votre vie, auriez-vous été d'accord avec la personne qui a formulé ce conseil, cette recommandation ou cette critique? Vous devez vous décentrer. Vous n'êtes pas votre projet. Deuxième possibilité, le compliment. Il est souvent dur à accueillir lorsque l'on manque de confiance en soi ou que l'on est méritocrate abusif. Mais pourquoi vous obliger à être seul juge et à dévaloriser votre travail, vos accomplissements? Acceptez également que ce que vous faites puisse plaire. Ne vous réfugiez pas derrière une dévalorisation ou des comparaisons avec d'autres personnes qui ont des dons similaires. Demandez régulièrement l'avis d'une personne de confiance. Vous devrez accepter l'avis de cette personne, qu'il soit bon ou mauvais, et continuer en conséquence.